Donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur Lucius Keller, que tout Proustien qui se respecte connaît de longue date. Il est professeur émérite de littérature comparée et de littérature moderne à l'Université de Zurich, et il a publié de très nombreux travaux sur l'œuvre de Proust, Proust sur les Alpes, Marcel Proust, la fabrique de Combray, Proust et l'alphabet, Proust 1913... Il a contribué au dictionnaire Marcel Proust, honoré champion, qui a donné lieu ensuite à un ouvrage en allemand, Marcel Proust, Encyclopédie, j'espère ne pas prononcer trop mal. Et surtout, il a dirigé l'édition complète des œuvres de Proust en allemand chez Surkamp, 14 volumes. Donc, c'est dire que Lucius Keller représente les études proustiennes dans toute la zone germanophone. Et notamment la Proust-Gesellschaft, qui est très active, doit beaucoup à son expertise. Donc, il nous présente aujourd'hui une communication intitulée « Dans l'incertitude sur la forme de l'art, Proust critique d'art ».
Merci. Je remercie le Collège de France et Antoine Compagnon de l'accueil généreux. Je remercie Françoise Leriche de la présentation aimable. En vous parlant de Proust critique, mesdames et messieurs, je cours un double risque de répétition. Je risque de me répéter moi-même en reprenant des choses traitées bien, dans d'autres contextes, dans des études antérieures, et je risque de vous ennuyer en vous parlant de choses dont peut-être il a été question dans le cours et les séminaires qui précèdent ce colloque, et certainement dans les contributions qui précèdent la mienne aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, j'affronte le risque. Si en juillet 1908, Proust note dans le carnet intitulé par Philippe Kolb « Le carnet de 1908 » son incertitude sur la forme d'art et se demande s'il faut faire un roman ou une étude philosophique, s'il se pose dans la même note la question « Suis-je un romancier ?» et si quelques mois plus tard, il demande à Georges Delauris et à Anna de Noailles un conseil sur la forme qu'il doit donner à ce qu'il a l'intention de faire sur Sainte-Beuve, article de forme classique ou récit d'une matinée, à ses débuts, la question de la forme ou du genre ne se posait pas. Dans les petites revues des lycéens, et plus tard dans le mensuel et dans le banquet, tous ceux qui y participaient faisaient un peu tout. Et c'est ainsi que la première contribution de Proust au mensuel, après de toutes petites notes sur la vie mondaine et sur la mode, dans le numéro de novembre 90, ce fut au numéro suivant de décembre, le compte rendu de l'exposition internationale de peinture à la galerie Georges Petit, un texte donc de critique d'art. Il est signé par De Brabant. Proust commence par un jeu onomastique dont l'enjeu est le nom du galeriste, Georges Petit. Petite salle, petit tableau et j'allais dire petit art. Plus tard, l'enjeu de l'adjectif « petit » antéposé prendra une dimension bien différente. Petite Madeleine, petite phrase, petit pan de mur jaune, etc. Au numéro 8 du mensuel, en mai 91, paraît une chronique intitulée « Impressions de salon » et signée par Fusain. Dans un sens restreint, ce sont là les deux seuls textes publiés de Proust, critique d'art. Bien sûr, il y aura d'autres écrits sur l'art de Proust. Jérôme Picon les a réunis sous ce titre dans un volume de la collection Garnier-Flammarion, et Proust esquissera, sans les publier et souvent sans les achever, d'autres textes de critique d'art. L'article sur Chardin et Rembrandt, les textes sur Rembrandt, Watteau, Moreau et Monet, tous inachevés, mais qui auraient pu aboutir à des essais. Dans un sens plus large, on peut considérer beaucoup de ce que Proust a écrit sur Ruskin comme de la critique d'art, tandis que les textes sur Dante, Gabriel, Rossetti, sur Madame Herbelin et d'autres appartiennent plutôt au genre de la chronique mondaine. Par contre, je range parmi les écrits de critique d'art les 4 portraits de peintres publiés le 21 juin dans Le Gaulois et repris dans Les Plaisirs et les Jours. Si de ces pastiches littéraires, Proust dira dans une lettre du 17 mars 1908 à Robert Dreyfus que c'est de la critique littéraire en action, on pourrait dire que les poèmes sur Van Dyck, Cuyp, Potter et Watteau relèvent d'une critique d'art en action. S'il en est ainsi, j'ajoute à ces 4 poèmes un morceau en prose que Robert Proust a publié en 1930 dans son édition des Lettres à Robert de Montesquieu. Il y figure au numéro 42 et fait suite à la lettre 41, numéro 41, datée de dimanche 11h. Dimanche 11h, et dont voici le début. Cher monsieur, si vous daignez lire l'étude de 6 juin, vous comprendrez pourquoi ce soir je vous suis particulièrement reconnaissant. Le mot est souligné, entre parenthèses, étude déjà ancienne, et que je ne vous aurais pas envoyé mes actuels, hélas, et de par vous. Le morceau publié sous le numéro 42 porte le titre « En revenant du vernissage sur la psyché du comte ». La psyché avec majuscule, c'est une œuvre d'art, donc c'est un miroir. Robert Proust avait acquis les 2 documents qu'il range parmi les lettres de 1896 à la vente Drouot en avril 1923. Depuis, tous les éditeurs de la correspondance de Proust ont repris soit la lettre de dimanche 11h, soit le morceau qui y est joint. Philippe Kolb a pu préciser les choses. La lettre date du 11 mars 1894. Mais cette date a mis en difficulté Françoise Le Riche, puisqu'elle savait, grâce à l'ouvrage d'Antoine Bertrand intitulé « Les curiosités esthétiques de Robert de Montesquieu », que le vernissage mentionné dans le titre du morceau en question eut lieu le 24 avril 1894, donc après la lettre en question. Elle envisage, Françoise Le Riche envisage, la possibilité que l'étude si jointe pourrait être non pas en revenant du vernissage, mais un autre texte. En même temps, elle rejette l'idée qu'il s'agirait de l'article « De la simplicité de Monsieur de Montesquieu », puisque ce texte-ci, Montesquieu le connaissait depuis longtemps. Les difficultés ne disparaissent qu'au moment où on prend au sérieux le terme d'étude. Dans une lettre à Montesquieu du mois de novembre 1893, Proust parle d'un côté de mon article, c'est celui sur Montesquieu, de la simplicité de Monsieur de Montesquieu, et de l'autre côté, il parle de petites études de moi. Petites études de moi qui vont paraître en revue, dans la revue blanche. C'est par le terme d'étude que Proust désigne les textes courts, poèmes en prose, aphorismes, portraits de caractère, récits courts, qu'il publie dans Le Banquet et dans la revue blanche. Et parmi ceux-ci, il y en a un qui commence par soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur. Elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes fleurissent. Mais soyons plus reconnaissants aux femmes méchantes ou seulement indifférente aux amis cruels qui nous ont causé du chagrin. Le mot « reconnaissant » souligné dans la lettre nous montre que c'est bien ce texte-ci, cette étude que Proust joint à la lettre de dimanche 11h. Le texte a paru dans la Revue Blanche en juillet-août 93 et il porte le titre « Éphémère efficacité du chagrin ». C'est ainsi que le morceau, en revenant du vernissage sur la psyché du comte, a été publié dans toutes les éditions de la correspondance de Proust et qu'il ne figure dans aucune édition de ses œuvres. Et il mériterait bien d'y figurer comme exemple de critique d'art en action. L'objet en question, cette psyché du comte, est une œuvre conçue par Montesquieu, fabriquée par Gallet et exposée au Salon du Champ de Mars en 14, excusez-moi. Montesquieu et Gallet se sont connus lors de l'exposition universelle en 89, où Gallet avait installé un pavillon, la flore paléontologique. Dans la suite, ils ont, inspirés l'un de l'autre, exposé au Salon de la Société nationale des beaux-arts, c'est-à-dire au Salon du Champ de Mars, en 92, une commode aux hortensias. En 93, une pendule de pensée. Et en 14, une psyché aux glycines. Et voilà que Proust s'en inspire de son côté. Il est difficile de dire si Proust pratique tout simplement un certain style, le style symboliste décadentiste, si l'on fait un pastiche ou si l'on fait la caricature. Écoutez ou lisez la fin de ce texte, mais ce qui précède est tout aussi chargé. Mais plus n'en disait le miroir silencieux et éloquent, aveugle et voyant, et qui nous renvoyait notre rêve, enrichi, attristé du sien, dans le cadre achevé de son élégance, hautaine et fléchissante, mélancolique et résignée, distraite et pensive. Madame de Combremer aurait mis 3 adjectifs, Proust en met 3 fois 2. Le texte est signé Marcel Proust, qui met au pied de l'artiste son respect, son admiration sincère et sa fidèle amitié. À ce moment, Proust inonde Montesquieu de cadeaux. En mars, un oiseau bleu, un arbuste rose, probablement un bonsaï, un ange de crèche. En avril, le morceau sur la psyché du comte, en mai, la chronique, une fête littéraire à Versailles. N'entrons pas dans le détail de cette phase assez compliquée des rapports entre Proust et Montesquieu et revenons à la critique d'art. J'enlève donc, en revenant du vernissage, à la correspondance de Proust pour ranger le texte parmi les écrits sur l'art, comme un exemple de critique d'art en action. Une année plus tard, en novembre 1995, Proust propose au directeur de la revue hebdomadaire Pierre Minguet un texte sur Chardin et Rembrandt qu'il qualifie de « petite étude de philosophie de l'art ».« Petite étude », c'est ici une formule de modestie, car, à vrai dire, Proust vise plus haut. Après les chroniques et les comptes rendus, après les poèmes et les poèmes en prose, après les récits ou nouvelles, après les genres mineurs qu'il pratiquait auparavant, il vise maintenant les genres majeurs qui sont du côté critique l'essai, en ce moment il lit Emerson avec ivresse, et du côté narratif le roman. Mais les deux côtés ne sont pas nettement séparés. Dans Chardin et Rembrandt, Proust imagine un jeune homme dégoûté par la banalité des objets qui lui tombent sous les yeux chez lui, se rend au Louvre et découvre les mêmes objets, mais transfigurés par l'art de Chardin. Le récit sert de véhicule à l'essai. De manière analogue, dans Jean Santeuil, par exemple dans les chapitres sur Illier, sur Begmel, sur les réveillants à la belle saison, la critique d'art sert de véhicule au récit. C'est ainsi que certaines pages du roman se présentent comme une réflexion sur tel tableau ou tel peintre, ou comme une réflexion de tel tableau et de tel peintre. Je rappelle une remarque sur une voisine des réveillants à la campagne, la princesse de Durham. Cette princesse de Durham qui, avec un goût exquis d'ailleurs, sans altérer le style du château, avait emporté avec elle les Claude Monet, les Pissarro, dont elle pouvait le moins se séparer, ceux qui de plus correspondaient le mieux à la nature du pays où elle se trouvait. Or, le pays où elle se trouve évoqué dans le contexte du roman par des tableaux littéraires qui s'inspirent précisément de Monet ou de Pissarro. L'écriture romanesque est en même temps critique d'art en action. À un certain moment, vers 1900, la critique d'art semble même l'emporter sur le roman. Dans les deux chapitres, les Monet du marquis de Réveillant et un amateur de peinture, Monet Sisley Corot, le récit se trouve réduit à un pur prétexte pour la critique d'art. Sans nommer les deux collectionneurs, dans l'un de ces chapitres, Proust se rappelle une visite chez Charles Effroussi. Dans l'autre, il évoque le collectionneur rouennais François Depot. Ce chapitre-ci, un amateur de peinture, est particulièrement intéressant, non seulement parce qu'il est une espèce d'hommage aux collectionneurs que Proust connaissait, Effroussi, Charpentier et les Polignac, mais encore parce qu'il propose trois possibilités de critique d'art. C'est pourquoi je me permets aujourd'hui d'y revenir encore une fois. Dans un premier temps, Proust évoque cinq toiles de Monet. Elle les fait parler. Leur prosopopée nous invite à les regarder et nous dit ce que nous voyons. Mais tout ce Monet ne fait que nous répéter « Dieu, qu'il y a de soleil aujourd'hui sur la mer, voyez comme les ombres sont noires et fraîches, voyez comme les pierres sont roses, voyez comme au loin les bateaux papillonnent dans une mer volatilisée, mais ayant aussi le plus petit, sa petite ombre noire. » Et puis, entre parenthèses, c'est le titre du tableau. Falaise d'Étretat. Et ainsi de suite pour les quatre Monet suivants. C'est la forme poétique, la forme poétique de la critique d'art. Dans un deuxième temps, l'amateur, ayant découvert et acheté des ciselés, le critique d'art, qui est le romancier en ce moment, compare deux styles, deux manières, ou si vous voulez, deux univers, celui de Monet et celui de Sisley. C'est la forme réflexive, proprement critique, de la critique d'art. Une troisième forme se trouve expérimentée après que l'amateur, cherchant chez un marchand un ciselé, y trouve un Corot. Or, cette fois-ci, c'est le romancier ou le critique qui se charge de la description. La toile est très petite, mais le paysage est très vaste. On y voit des pommiers, des peupliers, un village, je cite, « répandu inégalement au-dessus et au-dessous du vallon », dans la description sont insérés des renvois au tableau précédent de Monet et de Sisley, des réflexions sur la structure spatiale du tableau et sur la pensée répandue dans le tableau, et aussi des souvenirs évoqués par un « nous ». Et par ce « nous » en glisse du discours critique, où c'est l'auteur qui parle, au récit de souvenirs, où c'est un narrateur qui parle. C'est un sentiment, donc maintenant le sentiment qui est répandu dans tout ce tableau, c'est un sentiment que nous avions au temps où nous faisions des promenades dans la campagne, quelquefois par un temps peu éclatant, où le soleil cessait par moments de briller sur la terre et dans le ciel et ne retenait son éclat que dans la nacre des grands nuages blancs qui étaient immobiles dans le ciel, aussi tranquilles que le hameau que nous apercevions au creux de la vallée et qui, lui, en ce moment étincelait d'un soleil qui semblait pourtant absent du ciel et où nous revenions quelquefois quand la lune pleine était assez élevée dans le ciel bleu et où les pommiers de la route donnaient une ombre bien différente de celle qu'ils donnent au soleil. Sommes-nous dans Jean Santeuil ? Ou sommes-nous dans Sur la lecture ? Ou sommes-nous dans Combray ? Nous nous trouvons au moment où Proust est en train de trouver le ton, ou si vous voulez, le parfum de Combray, de trouver aussi ou d'expérimenter une forme de discours où se juxtapose et s'alterne, parfois même se pénètre mutuellement, récit, description et réflexion, forme que l'on retrouvera dans « À la recherche du temps perdu ». Dernière remarque sur le corot de l'amateur de Rouen. Dans le dictionnaire Marcel Proust, on propose qu'il s'agit de la toile de corot intitulée « Petit Chavy ». Pourtant, je ne trouve ni dans « Petit Chavy » ni dans le reste de l'œuvre de corot, réunis dans une même toile, des pommiers, des peupliers et un village répandu au-dessus et au-dessous du vallon. D'autre part, je trouve des pommiers et des peupliers dans un Monet de 78, ayant appartenu à Effroussi, et dans un paysage de Pissarro de 73. Dans ce paysage de Pissarro, je trouve un village répandu au-dessus et au-dessous d'un vallon. À mon avis, l'amateur de Rouen achète un tableau provenant de l'atelier de Marcel Proust, qui compose un pastiche, qui pratique une fois de plus ce que j'appelle la critique d'art en action. On peut dire que Proust s'est bien préparé à la tâche. C'est pendant les années où il s'occupe de Jean Santeuil qu'il fait la connaissance de connaisseurs et de collectionneurs, Strauss, Effroussi, avec sa Gazette des Beaux-Arts, Charpentier, les Polignac. Et depuis le début des années 90, il visite les expositions et les salons et les musées. J'en ai dressé la liste approximative et certainement encore lacunaire. À cette liste, on devrait ajouter, je le sais bien, une liste des ouvrages d'histoire de l'art, des catalogues et des reproductions que Proust a lus et connus. Dans des études précédentes, j'ai suivi quelques traces, soit évidentes, soit cachées, de ses visites et lectures dans l'œuvre. Aujourd'hui, je ne rappelle que les pages sur Rembrandt, écrites après la visite de l'exposition Rembrandt à Amsterdam en 1998, et qui me suggère une remarque sur le genre de l'essai tel que Proust le pratique. Si la critique d'art envahit, comme nous venons de le voir à propos de Jean Santeuil, la fiction envoie aussi l'essai. À la fin de l'essai sur Rembrandt, l'auteur, ou disons plutôt le narrateur, qui dit tantôt « je », tantôt « nous », se souvient d'avoir rencontré dans l'exposition Rembrandt à Amsterdam Ruskin, peu avant sa mort. Ruskin face à face avec Rembrandt, l'un regardant l'autre. Scène où la fiction fait intrusion dans la réalité de l'essai. La salle de musée en est le cadre idéal. Dans la scène de la mort de Bergotte, on verra que la salle de musée est aussi le cadre idéal pour l'intrusion de la critique d'art dans la fiction. Avant de m'arrêter à cette scène, je fais un petit détour. Quand Proust partait en 98 et en 1902 pour la Hollande, peut-être avait-il lu ou emportait-il avec lui un manuel intitulé « Musée de la Hollande », deux volumes parus en 58 et 60 chez Jules Renoir. On y peut lire que Vermeer était un artiste bizarre. Et à propos de la vue de Delft, dans le tableau de La Haye, vue de Delft, du côté du canal, il a poussé les empattements à une exagération qu'on rencontre parfois aujourd'hui chez M. de Camp. On dirait qu'il a voulu bâtir sa ville avec une truelle et ses murs sont de vrais mortiers. Trop et trop. Rembrandt n'est jamais tombé dans ses excès. S'il empâte les clairs quand un vif rayon fait jaillir une forme, il est sobre dans les demi-teintes et il obtient la profondeur des ombres par de simples et légers frottis. Ce qui est curieux, c'est que l'auteur de ces lignes est en même temps celui qui, quelques années plus tard, a fait connaître au public français Vermeer, Théophile Thoré, où il s'appelle aussi William Burger, Thoré Burger, Burger ou Burger Thoré. Or, les paroles de Bergotte mourant sont comme la réponse de Proust, critique d'art, aux lignes que je viens de citer. C'est ainsi que j'aurais dû écrire. Mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. Au lieu d'un trop d'empattement, Proust reconnaît dans Vermeer ce que l'on pourrait appeler la profondeur de la surface, un fini et qui n'est pas virtuosisme, mais signe de profondeur. Voilà un premier point que Proust, critique d'art, a découvert dans la peinture de Vermeer. En voici un deuxième. L'extase de Bergotte mourant est provoqué non seulement par la qualité picturale du tableau de Vermeer, mais encore par le fait que cette qualité se manifeste dans un objet modeste, insignifiant en lui-même. Dans une note du carnet de 1908, précédée de l'indication « pour ajouter dans la dernière partie à ma conception de l'art », Proust énumère de tels objets, comme on les trouve chez Vermeer, en les opposant aux grands sujets de l'art, comme les traite un Romain Rolland. Aussi ne pouvons-nous pas nous intéresser quand on nous parle d'un art plus humain, moins humain. Cela n'a pas de sens pour nous. Les boutons dans une chaise de cuir, un point dans une étoffe, Vermeer de Cannes, un corsage, Strauss, valent autant qu'un art humain, Rolland. Je cite le texte d'après l'édition de Philippe Kolb datant de 76. Le tableau en question est intitulé tantôt « La servante endormie », tantôt « Une jeune fille assoupie ». Il se trouve aujourd'hui au Metropolitan Museum à New York. Proust l'a vu peut-être en 1907 chez le marchand de tableaux René Jampel. Peut-être connaissait-il aussi le catalogue illustré de la collection Cannes par Wilhelm Bode, qui date de 1900, ou la série d'articles de Marguillier dans la revue Les Arts de 1903, ou alors la réédition du catalogue en 1907. Le tableau montre une jeune femme assise à une table couverte d'une nappe en désordre et où sont posés une carafe et un verre presque vides. Elle dort, ses joues sont rougies. Allons au-delà de la surface. Elle est ivre. Elle a bu après une déception amoureuse. À gauche, en haut, on devine le tableau de César van Everdingen qui représente Eros, tableau ayant appartenu à Vermeer. À droite et derrière la jeune femme, on voit la chaise au bouton et à droite, le cuir est déchiré, ce qui n'est pas sans signification. Proust note les boutons dans son carnet et il s'en souvient dans la deuxième partie des jeunes filles quand Marcel, ivre, d'ailleurs ivre, tombe en extase en apercevant les boutons en métal de la tunique d'un vieil employé des chemins de fer. Peu avant, une extase analogue est provoquée par la couleur bleue du store de la fenêtre du wagon. Le jaune du petit pan de mur, le bleu du store et les boutons en métal, autant d'éléments vermeeriens que le critique d'art passe au romancier. Déjà, du côté de chez Swann, les deux, le critique d'art et le romancier, collaborent à propos de Vermeer. Quand Swann voudrait se rendre à Brunswick et à Dresde pour vérifier son attribution à Vermeer d'une toilette de Diane achetée par le Moritz Heuss comme un Nicolas Maas, le critique d'art sait que l'entremetteuse à Dresde appartient, comme la toilette de Diane, à une première manière de Vermeer. Mais le romancier choisit Brunswick et Dresde parce qu'il veut inscrire au-dessous de la surface une autre couche de signification. Il sait que dans ces deux villes, Swann aurait vu des tableaux qui auraient réveillé ses soupçons et ses fantasmes de jaloux. À Brunswick, la jeune femme au verre de vin, c'est une scène de séduction, et à Dresde, l'entremetteuse. Après ce détour par du côté de chez Swann, je rejoins Marcel voyageant vers Balbec. On peut s'étonner du fait que le voyage de Paris au bord de la Manche se fait en train de nuit. Or, Proust en a besoin, car il veut inaugurer la partie de la recherche que l'on pourrait appeler la journée impressionniste du roman par un lever du soleil, comme l'impressionnisme est inauguré par le soleil levant de Monet. Monet donc est présent au départ à la gare Saint-Lazare, il est présent le lendemain matin au lever du soleil, mais si le peintre impressionniste regarde et peint assis devant son chevalet, le héros de Proust se trouve situé dans un train qui suit un tracé sinueux. Si bien que je passais mon temps à courir d'une fenêtre à l'autre pour rapprocher, pour rentoiler les fragments intermittents et opposites de mon beau matin écarlate et versatile et en avoir une vue totale et un tableau continu. Le critique d'art prête ici au romancier un terme technique provenant de l'atelier du restaurateur. Seulement, le terme n'est pas tout à fait exact, car il ne s'agit pas de poser une toile neuve au revers d'une toile originale et usée, c'est le sens de rentoiler, mais de coller ensemble des fragments, des vues différentes d'un même spectacle. Autrement dit, Proust fait un collage. Si le train en mouvement rappelle le futurisme, la composition du tableau par des fragments collés les uns aux autres renvoie au cubisme. Dans aucune partie de la recherche, sauf peut-être la soirée chez le duc et la duchesse de Guermantes, le savoir du critique d'art n'a autant nourri le roman de Proust que dans la deuxième partie dans l'ombre des jeunes filles en fleurs. Je ne m'arrête pas à la merveilleuse galerie des Marines, ni aux promenades avec Madame de Villeparisis, ni à l'atelier d'Elstir, pour passer tout de suite à un texte situé tout à la fin du volume où Marcel... Oui, j'arrive. Une minute. Où Marcel, après le départ des jeunes filles, évoque et se rappelle les visages différents de ses amis. En écrivant ces pages, Proust pense peut-être à des portraits de Helleux, et plus spécialement à ses études de Helleux ou de Watteau ou de Delacroix, où plusieurs têtes de femmes ou de jeunes filles sont réunies. Quoi qu'il en soit, il s'exprime en connaisseur, en critique d'art, considérant les traits, le dessin, la coloration et l'éclairage de chacun des visages évoqués. Voici un passage concernant l'éclairage, de sorte que des visages peuvent être construits de façon dissemblable selon qu'ils étaient éclairés par des feux d'une rousse chevelure, d'un teint rose, par la lumière blanche, d'une mate pâleur, s'étiraient ou s'élargissaient, devenaient autre chose, comme ces accessoires des ballets russes consistant parfois, s'ils sont vus en plein jour, en une simple rondelle de papier, et que le génie d'un Bakst, selon l'éclairage incarnadin ou la lunaire où il plonge le décor, fait s'y incruster durement comme une turquoise à la façade d'un palais ou s'y épanouir avec mollesse, rose de Bengale, au milieu d'un jardin. Ainsi, en prenant connaissance des visages, nous les mesurons bien, mais en peintre, non, en arpenteur. Rose de Bengale au milieu d'un jardin nous renvoie au bosquet de roses de Pennsylvanie, ornement d'un jardin sur la falaise, auquel les jeunes filles sont comparées lors de leur apparition. La simple rondelle de papier, transfigurée par l'art de Bakst, nous renvoie au bouton dans une chaise de cuir ou au pan de mur jaune transfiguré par l'art de Vermeer et en même temps à tous ces objets qualifiés de petits transfigurés par l'art de Proust. Mais les considérations sur l'éclairage et celles sur le dessin et la coloration qui précèdent et qui accompagnent le thème des jeunes filles, dès le début, nous renvoient à Proust critique d'art, à son savoir, à sa compétence de critique d'art et témoignent en même temps, bien sûr, de sa compétence de romancier. Merci.